Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Prévu ni pour lui ni pour moi, c'était une rencontre, c'est le mystère des rencontres, il se passe quelque chose, c'était pas prévu, moi j'étais moi-même divorcée, j'ai pas du tout envie de m'embarquer dans quelconque histoire, encore moins avec un prêtre, étant catholique plutôt traditionnel autrefois, j'imaginais, enfin pour moi, comme beaucoup de chrétiens, bon entre-temps évidemment mon point de vue a bien évolué. Bon, un prêtre, c'était un petit peu un intouchable, dans le sens un extraterrestre, l'homme du sacré. Pour moi, c'était vraiment, je me posais beaucoup de questions, je culpabilisais même. C'est lui-même qui m'a dit, mais c'est pas un péché d'aimer un prêtre. Et on s'imaginait, on se faisait des plans style, on va vivre ça sur le mode platonique. Alors on pensait à, enfin, toute proportion gardée, hein, en toute modestie. On essayait de s'imaginer les modèles connus dans l'histoire d'amitié ou d'amour, même platonique, de saints comme saint François, sainte Claire, etc., etc. Saint-Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix, enfin, vous voyez, toute proportion gardée. Bon, et puis finalement, quand l'amour vous prend, eh bien, écoutez, c'est pas du tout comme ça. On peut pas rester sur le mode platonique. On n'est pas des mystiques ni des saints dans ce sens-là. Et puis, très vite, on est devenus des amoureux, comme tout le monde. Et puis, voilà, donc, c'est évolué comme dans chaque couple.
Nous sommes en 2003, c'est un couple comme les autres, une histoire comme les autres et surtout un homme comme les autres, fait de chair et de sang. Un pauvre pêcheur soumis à la tentation, à l'appel de la chair et peut-être aussi au rêve d'une vie de famille. C'est un homme normal, très normal en somme, sauf que cet homme est prêtre et que ces femmes sont des clandestines, des femmes planquées dans l'ombre d'un presbytère, dans la solitude de l'attente et l'hypocrisie d'une double vie. Des femmes pourtant qui, au sein de l'association Plein Jour, luttent pour que l'on reconnaisse leurs droits, pour que cesse l'hypocrisie et que soit abolie, tout simplement, la règle du célibat des prêtres. On n'y est pas encore, ni aujourd'hui, ni en 2003, mais on les écoute, trois femmes qui parlent en plein jour, un reportage de Leïla Djikli et Sonia Kronlund, diffusé pour la première fois en 2003.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
C'est quelques maisons adossées à la Nationale, dans un tout petit bourg à côté de Lille. Là, il y a un marchand de fleurs. On voit quelques voitures qui passent. Une maison avec deux fenêtres, des fleurs au balcon. Là, c'est la rue du cimetière. Et puis, le 64. Et sur la sonnette, il y a écrit Dieu.
Bonjour.
L'accueil.
Comment ?
On a l'habitude qu'il fasse l'accueil. Vous voulez vous installer, vous aussi, peut-être?
Vous êtes sur Internet?
J'arrive pas à me connecter, justement. J'aurais bien voulu aller voir mes mails. Parce que pour l'association, c'est vachement important de suivre, en fait. Et là, pas moyen de me connecter. Donc voilà, j'attends. Parce que ces temps-ci, j'ai beaucoup de messages.
Est-ce que, Laurence, est-ce que vous avez une photo, quelque chose que vous pourriez montrer qui raconte le début de votre histoire?
Alors j'ai effectivement une photo en mémoire dans l'ordinateur, mais j'ai eu beaucoup de mal à la prendre puisque systématiquement il est effacé. Mais c'est pas le début de notre histoire, c'est pendant au cours de notre histoire. Voilà, en train de déboucher une bouteille de vin, vous voyez, en train d'ouvrir des huîtres, voilà, c'est lui. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en fait, tout ce qui n'a pas effacé de mon appareil numérique. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de le prendre en photo, il supprimait. Donc, m'avait dit une fois, ouais, tu vas envoyer ça par Internet à tes copines. Je dis, non, mais ça va pas. Ouais, toujours sur la défensive, toujours la peur. Comme si j'irais envoyer sa photo à mes copines par Internet. Non, mais je rêve. C'est quelqu'un d'une apparence très, très cool et de toute façon, quand on le croise dans la rue, il ne porte pas de col romain ni de croix et je pense qu'on ne peut pas deviner qu'il est prêtre. Moi-même, je l'ignorais quand je l'ai rencontré. J'ignorais totalement qu'il était prêtre et me l'a caché pendant 6 mois. Moi, j'ai rencontré un homme, je n'ai pas rencontré un prêtre.
Comment ça a commencé ?
Par hasard, tout à fait par hasard. Comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré un homme. Mmh. Et puis voilà.
Et vous me faites des signes, ça veut dire que vous voulez pas me dire
non,
comment ça a commencé?
Non, je préfère rester discrète. C'est mon histoire, c'est ma vie. C'est aussi, ça a été une partie de la sienne. Et il y a des choses dont je préfère pas parler.
Donc vous rencontrez un homme.
Voilà. Je rencontre un homme avec qui le courant passe très bien, avec qui il se passe... on a des certains points communs, certains goûts communs, etc. On sympathise, on se revoit, de fil en aiguille, une relation démarre. Et puis, lorsque je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de non-dits, je me suis inquiétée de savoir un peu plus qui il était. Je me suis aperçue qu'il m'avait menti quant à son prénom, quant à ses activités professionnelles, etc. Et j'ai cherché, j'ai trouvé, et un beau jour, je lui ai dit, bah voilà, j'ai trouvé. Et puis il m'a dit, bah oui, c'est vrai, je suis prêtre.
Vous pouvez me dire par contre comment vous avez découvert, quelle était sa profession, si on peut dire une profession?
C'est-à-dire que dans un premier temps, bêtement, j'avais fait l'annuaire à l'envers avec son numéro de téléphone et je me suis aperçue que le prénom qu'il m'avait annoncé ne correspondait pas. Donc, inquiétude. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il habite chez un copain. Enfin, j'ai essayé de l'interroger. Bon, par rapport à sa profession, un jour, comme ça, dans la journée, pensant qu'il était au travail, je m'étais dit, je vais lui faire un petit coucou, laisser un message sur son répondeur, qu'il aura en rentrant ce soir. Il était là. Je me dis, tiens, tu travailles à la maison? Oui, les ordinateurs sont pas performants, je préfère travailler chez moi. Bon, j'ai vu traîner dans sa voiture journal La Croix, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Alors j'ai cherché, je me suis dit, après tout, peut-être que tes chaises ou...
Mais qu'est-ce qu'il vous avait dit qu'il faisait comme métier?
Il m'avait dit qu'il était éducateur. Ce qui n'est pas complètement faux, d'ailleurs.
Et donc, comment vous avez appris, finalement?
Je travaillais à cette époque-là à la banque où il a son compte. Donc à partir de son compte, j'ai vu d'où lui provenaient ses crédits. Donc là, ça a été clair, puisque depuis un moment, je me doutais qu'il y avait quelque chose avec la religion, mais je ne savais pas quoi. Dès l'instant où j'ai vu que ses ressources lui provenaient de l'évêché, à partir de là... Donc, c'était au bout de 6 mois de relation à peu près. Et c'était trop entamé pour que je décide de le quitter uniquement pour cette raison-là.
Comment je l'ai rencontré? Très classiquement, puisque moi, je suis catholique pratiquante, bien que critique sur beaucoup de choses. Mais bon, ça fait partie de ma respiration de vie. J'adhère aux valeurs évangéliques. En tant que telle, je suis une chrétienne convaincue, pratiquante parce que je ne peux pas rester chrétienne dans mon coin. Et nous nous sommes rencontrés très classiquement dans le cadre d'une paroisse, d'activité paroissiale. Donc ça s'est fait tout seul. Hein.
C'est-à-dire que lui était curé de la paroisse, voilà. Et vous faisiez quoi, le catéchisme?
Voilà, différentes activités très classiques, animation, liturgique, catéchèse. Voilà, donc on s'est connus en travaillant ensemble pour, dans le cadre d'une paroisse.
C'est sacré un prêtre, quand on sait qu'il fait vœu de célibat, de chasteté, etc.
Non, justement, bon, entre-temps, vous me dites un prêtre est sacré. Bon, c'est peut-être le regard que j'avais à l'époque, parce que je n'avais pas ni réfléchi, ni je ne m'étais pas documentée. Entre-temps, j'ai énormément appris au niveau, non seulement des rencontres que j'ai faites, mais j'ai appris aussi l'histoire de l'Église. J'ai rencontré beaucoup de prêtres concernés aussi. Donc, mon regard sur le prêtre, aussi par ma vie avec un prêtre depuis quand même beaucoup, bien des années maintenant, je me suis rendu compte que, ce n'est même pas que je me suis rendu compte, je sais maintenant que le regard sacré qu'on a sur les prêtres est abusif. Normalement, les prêtres ne sont pas, les prêtres sont des serviteurs, ce ne sont pas des hommes du sacré. Alors, les gens ont un besoin de sacré, donc focalisent leur besoin de sacré sur des personnes.
Moi, c'est pas du tout pendant des histoires de paroisse. C'est tout à fait par hasard au cours d'un voyage. Voilà, où on s'est rencontrés.
Comment ça s'est passé, cette rencontre?
Comme toutes les rencontres. Hein. Bon, je l'ai trouvé sympathique, il m'a plu. Puis à un moment donné, j'étais un petit peu étonnée. Je me disais, tiens, il était en train de me draguer. Et comme je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, ça m'étonnait un petit peu. Pour moi, c'était plutôt des extraterrestres. Qui était comme ça, qui était dans le célibat, et puis c'est tout. Je ne connaissais pas du tout ce qui se passait au sein de l'Église catholique, et j'étais un petit peu étonnée, mais enfin, je n'ai pas cherché plus loin, et puis je n'ai pas cherché non plus à approfondir le problème, et ce n'est que peu à peu que, vraiment, alors là, j'ai pris conscience que j'étais amoureuse de lui, et que ça allait devenir peut-être un petit peu ennuyeux et difficile. Voilà.
On a continué cette relation, mais j'ai eu beaucoup de mal dans la mesure où ça s'est toujours passé clandestinement. Il venait chez moi, je ne suis jamais allée chez lui, il ne voulait rencontrer personne. Nous ne pouvions pas sortir parce qu'elle avait peur d'être connue, etc. Et donc pas de vie sociale en fait. Quand on aime quelqu'un, on a envie de le présenter, c'est naturel. On a envie de faire des choses ensemble, partir en vacances.
Moi, j'ai toujours comparé ça, même si moralement ça n'a rien à voir, avec une femme qui vit avec un homme marié, par exemple, qu'il voit de temps en temps, qui accepte cette relation. C'est tout à fait ça, finalement. Sauf qu'il y a une femme, c'est l'Église. Mais bon, une femme qui accepte une relation avec un homme marié et que cet homme ne veut pas divorcer, donc veut garder sa famille, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que la femme est là, mais elle reste dans l'ombre, elle est dans l'ombre et elle s'efface devant toutes les obligations professionnelles du monsieur.
Toutes, on a un certain nombre de points communs quand même. Tout ce côté clandestin, ça on l'a toutes, on est obligé. Puisque sinon, si c'était pas clandestin, notre compagnon serait obligé, serait convoqué par sa hiérarchie aussi sec, et serait obligé, soit on le taperait sur les doigts, et on essaierait de le convaincre de renoncer à la relation, ou s'il ne veut pas, de faire un choix, de choisir soit la femme, soit le ministère. Mais les deux en même temps, c'est impossible. Voilà. Donc, vis ta vie, mais ne fais pas de vagues et surtout que ça ne se sache pas.
De toute façon, ça veut dire que vous êtes préparée à vivre une espèce de double vie comme ça.
Non, je ne suis pas préparée parce que moi, je n'accepte pas. Mais je ne l'accepte pas fondamentalement, mais je l'accepte quand même. Je vis avec des compromis. Je vis aussi avec une carotte. Je me dis un jour, quand je déciderai, ça prendra fin. parce que moi, si je vis comme ça, c'est parce que je le veux bien quelque part, parce que cette relation m'aide à vivre, parce que j'aime cet homme. Mais je reconnais que c'est pas une relation qui est vivable éternellement, je veux dire jusqu'à la fin de ma vie, parce que je trouve que c'est pas juste et que c'est trop douloureux et que je ne supporte pas toujours le mensonge et de ne pas que sa famille ne sache pas qu'il a une femme dans sa vie. Je trouve ça injuste et pas bien. Pas bien même dans le sens moral.
France Culture, les pieds sur terre.
Lui, il avait quand même le beau rôle dans l'histoire. Il vient quand il veut. Il sait qu'il sera toujours bien accueilli. La table. Bon. Ouais. Je trouve que c'est un peu facile quand même. Donc, en fait, nos rencontres étaient toujours à son initiative. Donc, là aussi, gonflé, parce que j'avais quand même le rôle de la femme soumise qui attend. Donc, au bout d'un moment, c'est plus possible.
En fait, vous, ça vous posait un problème concret,
oui,
mais pas un problème moral.
Ah, du tout, du tout. Du tout, je n'ai jamais eu de problème moral par rapport à ça.
Et lui ?
Ah, bien sûr, c'est évident, il avait peur, il était assis entre deux chaises, il a le côté qui est propre à ses fonctions. D'un autre côté, c'est un homme avec un besoin affectif et sexuel, ce qui est tout à fait normal. Donc lui, il était tout... c'est ça aussi son problème. Il doit être très malheureux. Je pense qu'il a... Même s'il m'aimait, je pense que cette relation a dû le miner, le ronger. Parce qu'il a, il a joué dans l'interdit. Il n'avait jamais rencontré de femme avant moi. J'étais la seule femme qu'il ait connue. Et à mon avis... la façon dont ça l'a perturbé, je crois qu'il n'y en aura pas d'autre. Hein.
Vous étiez sa première femme ?
Oui, bah oui. Il est rentré au petit séminaire à l'âge de 10 ans.
Et quel âge avait-il, sans indiscrétion, quand il vous a rencontré ?
45 ou 46 ans. 45 ans. Oui, bon, attendez, il n'y avait pas la pratique, mais il y avait bien la théorie. Par ailleurs, en venant ici, retrouver quand même une vie de famille. Hein, à chaque fois qu'il franchissait la porte, j'étais là avec mes enfants, mon chat. Donc, lui qui n'a vraiment pas vraiment eu de vie de famille, puisqu'il a commencé très jeune. Bon, après, sinon, bah, c'est les presbytères, hein, les collègues, les confrères éventuellement. Mais vraiment une vie comme ça, je pense que ça devait lui plaire aussi.
Là, c'est un homme. C'est un prêtre, mais c'est un homme avant tout. C'est-à-dire que ces pauvres hommes, si je peux dire, à la fois sont victimes, mais sont victimes consentantes. C'est-à-dire que s'ils veulent être prêtres, ils sont obligés à cet engagement. C'est à prendre avec la corbeille du presbytérat. Mais d'autre part, il y en a certains, sans doute, ça les accommode aussi, ça les arrange aussi. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... Bon, on se réfugie derrière la règle, et puis ça va.
Est-ce que vous êtes vécu comme une victime à un moment donné, vous ?
Oui, parce que on se dit, à partir du moment où on se rend compte que c'est une situation injuste, peu à peu, on évolue. Hein. D'abord, qu'on se dit qu'on vit une situation qui ne devrait pas exister, qui est interdite. Après, on se rend compte, en potassant un petit peu l'histoire de l'Église, en se disant, mais... C'est pas possible. Depuis 1139, c'est très relatif dans l'histoire. Et puis, on apprend qu'il y a plein de papes qui ont eu des enfants, des papes mariés, des prêtres mariés, il en a existé plein. On se dit, mais c'est pas juste, mais pourquoi cette loi ? Et puis, bon, on vit ça sur le mode quand même. On se dit, on n'est pas très, très nombreux. Et puis, quand on apprend qu'ils sont nombreux, les personnes qui vivent ça, bon, ben, ça change complètement le problème. Donc on n'est plus victime, on n'est qu'un cas parmi d'autres. Puis on devient victime, on devient militant. Donc là, c'est l'autre stade.
Vous n'avez pas envie de faire, je vais utiliser un mot à la mode, votre coming out par moment ?
Non, parce que je suis honnête vis-à-vis de lui. Je ne veux pas le mettre dans des situations... Non, c'est un petit peu... Je ne vais pas dire que c'est un contrat entre nous, mais je ne vais pas me venger de cette façon. Par contre, je ne lui cache pas ni mon côté militant, ni tout ce que je fais, il le sait. Et il a vu toute mon évolution par rapport à ça, ce côté militant que je n'avais pas au départ. Donc ça, il le sait, je ne lui cache pas. Pour moi, c'est un peu le fait de militer, ça me redonne ma dignité par rapport à moi-même, par rapport à lui, par rapport à ce que je vis, par rapport à la communauté des hommes. Parce que à la fois, je suis contre ce côté caché et à la fois, je le dis ouvertement. Je dis, c'est pas bien. Voilà, donc ça me redonne quelque part une dignité par rapport à moi-même d'abord et par rapport à l'Église, par rapport au monde. Si j'ai besoin qu'on en parle tout le temps, c'est dans un but, c'est que quelque part les gens sachent que ces situations-là, elles existent et qu'elles ne sont pas justes. J'ai envie que ça bouge et que ça change. Peut-être moi, je ne verrai pas de mon vivant, mais quelque part, un jour, ça changera parce que ce n'est pas normal que des situations existent et ont toujours existé. Ben, si vous voulez, moi, je fais quelque part œuvre d'histoire. Les femmes de prêtres qui se cachaient... Moi, j'ai rencontré dans des rencontres comme ça, la bonne du curé, vous savez, classiquement, de village qui disait, mais qui était bouleversée de rencontrer. Elle me dit, mais moi j'ai vécu ça, j'ai vécu avec mon curé depuis. Et j'avais honte. C'est toujours existé. C'était vécu. Parce que dans un village, il fallait le cacher, il fallait pas le dire qu'on couchait avec le curé. Mais puis le curé, c'était un couple. Puis il avait bien besoin de ces gens-là, ils s'aiment. Je veux dire, c'est sur le mode classique dans les villages. Mais ça a toujours existé, ça. Mais avant, c'était vécu sur le mode de la honte. Maintenant, il y a des femmes, quelques-unes, qui disent, maintenant, on n'a plus envie. On ne veut plus que notre existence soit cachée. On veut que les gens sachent qu'on existe et que ça n'a plus lieu d'exister, ce genre de loi qui nous oblige à nous cacher. Voilà.
On a l'impression que vous êtes en colère, mais en colère contre quoi ?
Ma colère, elle se porte contre une règle. Contre une règle que je trouve absurde. La preuve, elle n'est pas respectée. Ma colère, elle se situe par rapport à l'hypocrisie, au mensonge, à tout ce qu'il y a autour de tout ça. Moi, tout ce que je peux dire, c'est ce que j'ai constaté. J'étais qu'une récré, qu'un tiroir qu'on ouvre de temps en temps, qu'on ouvre et qu'on ferme. Ça, c'est insupportable pour une femme.
Un 5 à 7.
Oui, tout à fait. Et un dimanche où j'avais un coup de calcaire, j'étais seule ici, j'ai dit, mais mince, je suis aimantée, pourquoi moi ? En plus, je m'appelle Dieu. Hein.
C'est quand même étonnant comme coïncidence.
Vous savez, ma psychiatre s'appelle Madame Tarret. Je suis la première à en rigoler, j'ajoute même que j'habite à la chapelle. En plus, et ma fille aînée, elle est née à Croix, un patelin qui s'appelle Croix. Donc je crois qu'on est vraiment poursuivis, nous. Donc ce jour-là, vraiment, un coup de calcaire, je me suis dit, mais je suis peut-être pas seule, après tout. Donc je suis allée sur Internet, et j'ai découvert l'association Plein Jour, avec un téléphone, une adresse e-mail. Donc aussitôt, j'ai pris contact avec les femmes de Plein Jour. Et ça m'a réchauffé de savoir que j'étais très très loin d'être seule, puisqu'il y a une association qui regroupe ces femmes, en fait.
Mais qu'est-ce que vous avez tapé sur Internet pour découvrir Plein Jour ?
J'ai trouvé très très facilement, tout bêtement, j'ai dû taper « Église et femmes ». Ah, ça a été facile.
Votre histoire, elle est finie maintenant ?
Oui, pour moi, oui, je la sens vraiment finie, oui. Oui, là, c'est clair.
Depuis quand ?
Oh, c'est récent, ça fait quoi, 2 mois ? Depuis, il a une autre affectation, il est éloigné géographiquement, donc même si on avait continué, là, ça aurait été la cata en termes de rythme. Je sais pas comment ça aurait pu. Ça a peut-être joué aussi, ça, en ce qui me concerne. Ça a peut-être joué parce que, déjà, je supportais mal la périodicité, si on peut, en admettant qu'il y en ait une. Mais alors là, en plus, un parti à plusieurs centaines de kilomètres, donc ça a dû m'aider aussi dans ma démarche de rompre.
Et vous faites quoi comme travail, Laurence? Ça, vous pouvez en parler, vous pouvez pas en parler?
Je suis secrétaire, je travaille à la poste. Donc à l'époque du compte, ce que je vous ai disais tout à l'heure, j'étais au chèque postaux. Mais je ne suis plus du tout au chèque postaux, je travaille dans l'immobilier de la poste. Mais bon, on a réussi à se connecter quand même.
Quartier d'été, toute cette semaine, leur chemin de croix, c'était aujourd'hui clandestine. Un reportage de Leïla Djitli et Sonia Kronlund, réalisé par Christine Berlamont et diffusé le 3 mars 2003. 15 ans plus tard, sachez que l'association Plein Jour soutient toujours les compagnes de prêtres et défend le mariage des religieux. Thank you.